Une table ronde, c'est fait pour débattre, donc on se renvoie la balle. Ou pour tourner en rond. Une première réaction avant de la salle. Décrire ce que l'on fait, oui, mais pas forcément comme on l'entend dans le champ MCO.
Oui.
Décrire ce que l'on fait, et non pas tant sur la manière dont on le fait, que sur le produit. Oui, ça, oui, voilà. Que sur la manière dont on répond à des besoins. C'est plutôt la qualité du service rendu, la réalité de la réponse apportée à des besoins identifiés, qu'il faudra identifier s'ils ne le sont pas encore, d'une population donnée, qui me paraît important, que de décrire les moyens avec lesquels on opère, les organisations qu'on met en place. Là, on est dans la normalisation des pratiques, ce qui n'est pas en soi une finalité, qui peut même être dangereuse. Et donc, utiliser la description de l'activité pour répartir des budgets nous paraît extrêmement limitateur d'initiative. Je ne me fais peut-être pas bien comprendre, mais financer des activités normalisées, c'est courir le risque d'être inadapté aux besoins et d'être inadapté aussi aux ressources disponibles localement. Voilà. Et donc, attention à ne pas, dans le schéma de pensée, plaquer sur le champ de la santé mentale, qui est assez radicalement différent de celui de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, des urgences, ces schémas qui effectivement permettent de décrire à travers des recueils ou des référentiels de bonnes pratiques, voire même de bonnes pratiques très concrètes en termes d'actes opératoires, de durée de séjour, de ressources à consommer, etc. Attention à ne pas limiter la variété des initiatives possibles. Et donc, il est certainement plus efficient pour la collectivité nationale de fixer des objectifs en termes de résultats de santé publique que de chercher à normaliser les pratiques des professionnels de la psychiatrie. Donc décrire les activités, peut-être, sûrement mieux qu'aujourd'hui, certainement, mais pas dans un but d'allocation de ressources directement, avant tout dans un but de contrôle de la qualité du service rendu et même de la réalité du service rendu. Sur ce plan, la proposition de l'ADESM, ça a été peu développé ce matin, elle est de ne pas mélanger système de financement et système de contrôle de la qualité ou des résultats atteints au regard des besoins de santé publique. Et d'utiliser, la position est d'utiliser pour ce contrôle de qualité les autres outils qui existent. Le premier d'entre eux, le contrat, ou plutôt les contrats. De la même façon que dans nos établissements, nous utilisons les contrats avec nos pôles, je parle du secteur public, dans le monde associatif, je ne sais pas, pour orienter les politiques médicales des médecins qui en sont responsables. De la même façon, nos CPOM avec nos ARS nous fixent au regard des besoins de nos territoires des objectifs qui peuvent être même quelquefois assez précis en termes de réponse à tel besoin dans tel bassin de population. Et de ce point de vue, les futurs projets territoriaux de santé mentale qui nous demandent de tenir compte des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont une bonne illustration de ce à quoi peut jusqu'où peut aller une politique publique. Elle peut aller jusqu'à demander aux opérateurs de décliner des actions par quartier. Ceci peut s'inscrire dans la contractualisation passée avec les opérateurs, établissements de santé et mentale par exemple. Et tout ceci, donc contrat, dans le cadre d'une programmation, et les projets régionaux de santé puis les projets territoriaux de santé mentale sont le deuxième outil. Donc, si je le prends en sens inverse maintenant, programmation, projet au sens de organisation d'une réponse à des besoins et contractualisation pour la mise en œuvre doivent pouvoir s'appuyer effectivement sur des outils de contrôle de la qualité ou des résultats, mais que ces outils ne soient pas directement utilisés pour le financement nous paraît le gage d'une plus grande latitude donnée aux acteurs de s'adapter. Voilà. Sinon, on risque de se planter comme depuis des années, on voit que le schéma de l'hôpital de jour s'impose comme l'alternative à l'hospitalisation complète. Or, pour ceux qui travaillent en psychiatrie, on sait bien que l'hôpital de jour est aussi le lieu de la chronicité, bien souvent, et donc n'est pas l'alpha et l'oméga de l'alternative à l'hospitalisation. Des solutions beaucoup plus diverses peuvent être mises en place avec nos partenaires dans le cadre de la gestion d'une enveloppe globale, d'ailleurs, ce qui s'est fait depuis des années. Voilà, donc viser une description d'activité pour tarifer et répartir des budgets me paraît un petit peu hors champ, puisqu'on est là dans le champ de la santé mentale. Voilà.
Oui, ah, un, deux, un, deux. Voilà, Gaël Leloup, directeur adjoint aux finances Centre Hospitalier Drôme-Vivarais. Je suis un peu attristé par un point que j'ai entendu à plusieurs reprises dans ces journées, c'est sur la question de la qualité des données. Je pense qu'on nous fait un mauvais procès, quoi. C'est un peu démobilisant pour les médecins d'IM et les contrôleurs de gestion qui œuvrent depuis de nombreuses années justement à restituer des informations. Alors, après, moi, je juge pas de la qualité parce qu'on ne peut pas juger son propre travail. Je crois qu'Olivier Serre ce matin nous a démontré que visiblement la qualité des données, alors bon, pour les établissements participants à l'enquête nationale des coûts, à l'étude, pardon, oui, enquête nationale des coûts, mais je pense que de manière générale, globalement, mais c'est mon ressenti, hein, que la qualité des données s'est bien améliorée ces dernières années, et sur le retraitement comptable, et sur le recueil d'informations médicalisées en psychiatrie. Il ne faut pas que le politique se retranche derrière une supposée mauvaise qualité de l'information, mais en tout cas, il faut qu'il apporte la preuve qu'il y a vraiment une mauvaise qualité, avant de dire que parce qu'on n'a pas des données de qualité, on ne peut rien faire en psychiatrie. Voilà, c'est un peu attristant pour nous, et voilà, à l'ère où les risques psychosociaux sont à la mode, faisons attention à... Hein, voilà. Non, je blague évidemment. Après, le deuxième point, pour l'avoir observé depuis de nombreuses années, alors je ne dis pas, je ne prends pas forcément parti sur, j'ai mon idée personnelle, mais entre le modèle productiviste ou pas, simplement, en dépit des pratiques qui sont effectivement très diversifiées en psychiatrie, on observe une forte corrélation entre l'activité et les coûts. Donc, ce n'est pas parce qu'on va financer potentiellement l'activité, mais que ce sera forcément normatif. Il ne faut pas forcément avoir peur d'un financement de l'activité en psychiatrie. En dépit de ces pratiques qui sont diversifiées, effectivement, les coûts sont homogènes. Allez regarder les coefficients de corrélation entre l'activité et les coûts, on est très près de 1. D'accord ? Donc, pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Enfin, après, il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas, sur l'hétérogénéité des pratiques, visiblement, ne génère pas des coûts très, très différents. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Deux réactions, contribution à la réflexion collective. Sur ta première observation, qualité des données, de ma part, aucune critique, hein, évidemment, sur la qualité des données produites par les DIM de nos établissements. Une suggestion, c'est que nous nous dotions collectivement et avec l'appui des agences nationales, et je pense notamment à la NAP, que nous nous dotions d'outils pour disposer de données, donc je fais un écho à l'exposé de Corinne Martinez hier, de données sur les besoins de santé et des données sur l'impact des politiques conduites. Parce que c'est là qu'on a le plus gros investissement à faire, il me semble. Aller plus loin dans la description de nos activités, on peut y mettre de l'argent et y passer du temps, mais c'est pas ça qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est de mesurer si ce que nous faisons a un impact sur le bien-être de nos concitoyens. Voilà. Si les politiques de santé publique que nous mettons en œuvre à travers la planification et les contrats se traduit dans le quotidien de nos concitoyens. Je mettrai ça en premier. Et là, on a certainement de gros travaux à faire. Parce que mesurer le besoin à travers la demande, et ça va faire le lien avec ma réponse au deuxième, ta deuxième observation, Gaël, c'est se baser uniquement sur la demande, c'est avoir une vision tout à fait biaisée, impartielle, incomplète, partielle de ce besoin. Celui qui s'exprime à travers une file active, il est absolument incomplet. Et je réponds ainsi, je commence à répondre ainsi à, ou à réagir ainsi à ta deuxième observation, corrélation activité-coût, effectivement. Je pense que ce que tu voulais dire, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, que là où il y a de la dépense, là il y a de l'activité. C'est parce qu'il y a des professionnels sur un territoire qui a une activité de psychiatrie. Et si le département de la Manche, je ne sais pas s'il y a des chers bourgeois parmi nous, le département de la Manche qui est en déshérence absolue en termes de psychiatrie libérale et hospitalière très faible, a une activité bien moindre que d'autres départements, c'est parce qu'il n'y a plus d'offres. Voilà. Il n'y a plus d'offres et le besoin ne s'exprime pas. On a l'impression qu'il n'y a pas de besoin. C'est faux, il y a un besoin. Simplement, il faut aller chercher le besoin. Et dès lors qu'on réinstallerait de la psychiatrie libérale, de l'offre privée, de l'offre publique, toute la palette de réponses, là on verrait bien que la population est en souffrance et qu'il y a des pathologies ici ou là, comme ailleurs. Voilà. Donc la corrélation coût-activité, oui, mais dans ce sens-là. Voilà.
Je souhaite faire une observation sur le sujet. Le titre de la table ronde, un nouveau financement pour la psychiatrie, quelle perspective ?
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ah, excusez-moi. Amal Azael Massieu, je suis directrice adjointe au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson et membre de l'ADESM. Donc, voilà, un nouveau financement pour la psychiatrie, quelle perspective ? Quand je lis le titre, j'imagine que je vais tomber sur un modèle, vous allez nous proposer un modèle qui bouleverse l'existant, et qui, du jour au lendemain, on nous donne de nouveaux financements pour des nouvelles choses. Et je constate dans les présentations qu'on ne fait que des constats plus ou moins heureux, en disant, oui, il y a des inégalités, on veut les réduire. Voilà. Et moi, je m'interroge, est-ce qu'à travers les inégalités, on a cherché, quand on dit dans telle région, il y a X, et dans une autre région, il y a par habitant, et dans une autre, le double, est-ce qu'on a cherché à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est-à-dire mettre en corrélation le coût face à l'activité. Je suis tout à fait d'accord. Tout cela est intéressant. Ce que j'aimerais qu'on travaille, c'est les perspectives. Les perspectives pour le modèle de demain, et Mme Gomez a fait une petite allusion, quelle psychiatrie on veut pour demain. Et si on veut travailler là-dedans, dans le présent, il doit y avoir des précurseurs. Et les précurseurs, on les trouve dans la recherche autour de la psychiatrie. On voit que sur la recherche médicale, il y a des choses qui évoluent et qui peuvent bouleverser les modalités de prise en charge sur le plan médical. On peut aussi réfléchir sur l'aspect social, comment nos modes de vie évoluent, comment l'évolution sur les outils dans notre quotidien transforme notre vie. Et j'aimerais bien qu'on voit, qu'on travaille sur des éléments qui nous donnent une vision de la psychiatrie, comment elle peut évoluer dans 10 ans, et d'anticiper avec la préparation des compétences, la préparation des outils dans ce sens-là. Parce que se concentrer sur l'existant, ça fait des années qu'on le fait et ça ne nous permet pas d'avancer. J'insiste sur l'aspect perspective, aspect recherche médicale et tirer des leçons dès à présent. Et on a les outils et les moyens de le faire, seulement il faut une volonté aussi politique, une volonté des professionnels, mais essentiellement politique pour le faire.
Alors là, je vous rejoins. On n'a pas parlé des perspectives, effectivement, de financement futur. On peut dire que la VAP, on peut dire que la DAF modulée, oui, ça c'est des modèles possibles. Qu'est-ce que c'est la psychiatrie de demain? Et effectivement, ce qu'on voit, moi je trouve en psychiatrie par rapport aux autres champs, c'est que cette diversité d'être capable d'être en ambulatoire de façon importante, d'être à l'extérieur, de faire des tas de choses, et de concevoir aussi des actions de prévention, des actions en communauté, des choses de ce type-là, ça ouvre des perspectives pour justement ces souplesses-là. Ça doit être pris en compte dans le modèle pour pouvoir permettre de mener ce type d'action-là. Et on voit que il y a un mot tabou sur l'histoire du financement au parcours, mais quelque part, c'est parce qu'il est beaucoup plus simple de tronçonner le système de santé et de raisonner par petits bouts de la lorgnette et d'opposer les uns aux autres. Et ça, effectivement, ça aboutit à un échec. On voit qu'on n'y arrive pas. Mais parce qu'on ne veut pas voir l'entièreté du parcours d'un patient et de comment on va le suivre dans sa vie de patient. Et justement, à quel moment, en psychiatrie, on prend une échelle pour aller mesurer son bien-être ou sa capacité à être dans la société, son retour, tout ça. Il y a des échelles pour ça. Bon, les autres pays en utilisent. Certains les utilisent. Nous, non, on n'y est pas encore. Donc, il y a des choses où on voit qu'il va falloir aller sur des modes comme ça, de plus tronçonner, de plus accepter de tronçonner des financements pour avoir une vision globale. Parce qu'effectivement, actuellement, on souffre tous de ce morcellement des choses qui fait que, quand un patient de psychiatrie s'en va en radiothérapie, en MCO, et qu'il faut qu'il y ait une infirmière de psychiatrie qui l'accompagne, pendant ce temps, elle n'est pas dans le service en psychiatrie. Elle est en MCO pour un seul patient, en train d'accompagner ce patient. Et là, est-ce que le MCO reverse à l'établissement de psychiatrie le coût d'avoir pu réaliser les soins de MCO et tout ça? Et c'est pareil sur ces patients qui sont chroniques en psychiatrie, qu'on suit pendant des années et des années. Voilà comment on fait les meilleurs soins, y compris somatiques, comment on prend en charge tout ça, ce patient dans sa globalité, pour pouvoir financer tout ça. Pas financer juste la partie psy, il faut financer aussi la partie somatique. Donc en fait, c'est une autre façon de voir les choses dans un continuum, et ce continuum, vous avez raison, en recherche, ils sont en train de plancher là-dessus. Avec des sociologues, avec tout un tas de choses, pour essayer de voir ce continuum et de voir dans ce continuum comment on pourrait imaginer d'autres formes de financement. Et je pense que voilà. Mais par contre, il faudra effectivement que nous-mêmes on chemine pour accepter d'en décrire déjà un peu plus que ce qu'on décrit, de ne pas accepter d'avoir des outils tout et n'importe quoi, et de pouvoir cheminer ensemble vers ça, parce que sinon on va s'arrêter là aussi. Ça, on achoppera toujours sur le fait qu'on va nous dire bah oui, mais on peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas de données disponibles, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, et qu'on achoppe dans le modèle. Voilà. Donc il y a la psychiatrie, le modèle de demain. C'est sûr que c'est pas un modèle T2A. Ça n'est pas un modèle T2A. Mais parce que T2A, ça veut dire tarification à l'activité. Ça ne veut pas dire qu'on ne décrit pas l'activité. Mais cette activité, on n'est pas, on va pas tarifer à l'activité, c'est bien évident. Donc en fait, il faut trouver un moyen d'ajuster des budgets, mais sur peut-être du parcours global de patient, des choses complètement différentes. Et de la réinsertion dans la vie, dans la société, tout ça, et de mesurer justement comment on en est capable de le faire et de voir comment on poursuit dans ces sens-là. Il y a des pays qui sont en avance là-dessus. Nous, on a aussi en France des équipes de recherche qui cherchent dessus. Donc en fait, tout n'est pas perdu. Il y a plein de gens qui réfléchissent et il y a des choses bien à partager. Et je pense que tous ensemble, on peut participer à cette réflexion.
Il y a d'autres travaux de recherche du type de ce que Mme Gomez cite. Il y a aussi des expérimentations, des réalisations d'ores et déjà de décloisonnement entre sanitaire, médico-social, social. Dans le cadre d'une gestion globale d'enveloppe, des établissements sont en capacité. Aujourd'hui, on a des exemples de créer des dispositifs complètement innovants en dehors du pur champ sanitaire. Il n'est pas interdit, donc on peut, dans le silence de la loi, mettre à disposition des professionnels de santé dans une structure purement sociale, du domaine du logement par exemple, pour faire de l'accompagnement de parcours de vie, et pas que de parcours de soins ou de parcours de santé, mais de parcours de vie de personnes vivant avec un handicap d'origine psychique. On peut le faire, ce n'est pas interdit et tant mieux, et on obtient des résultats extrêmement probants, puisque ça se traduit par exemple, l'exemple celui que j'ai en tête, par une quinzaine de patients qui tous les deux ans, c'est le taux de renouvellement de la résidence accueil à laquelle je pense, initiative conjointe sanitaire, sociale, gestion sociale avec des moyens du sanitaire, mis à disposition volontairement par l'établissement de santé mentale. On aboutit ainsi à une déshospitalisation radicale, définitive, d'une cohorte de plus en plus importante de patients atteints de maladies graves. Ça n'est écrit nulle part. Ce modèle, il n'est pas dicté. Il n'est même pas inscrit dans un projet régional de santé ou un CEPOM pour l'instant. Il est issu de la volonté des professionnels qui, ayant compris qu'ils avaient des intérêts communs et les patients au milieu d'eux, ont décidé de créer quelque chose de hors norme. Voilà. On n'est pas dans la recherche au sens où il n'y a pas un protocole de recherche avec un objectif de publication derrière, de reproduction derrière. On est dans la convergence des bonnes volontés pour mettre en œuvre avec beaucoup d'imagination, dans un contexte financier existant, des solutions qui apportent des résultats. Et je reviens à mon leitmotiv, il faut se donner les moyens de vérifier l'impact de ces actions sur la santé des populations. En l'occurrence, sur ce cas particulier, il y aurait eu matière, en commençant dès le départ, suivre une cohorte et de patients et à démontrer scientifiquement que ceux-ci vont mieux au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est exactement la démarche que mène l'ANAP sur bien des sujets, mais en dehors même de ces initiatives conduites sur un certain nombre de grands thèmes par l'ANAP, il y en a bien d'autres, et c'est ce que nous voulions dire en écrivant que la psychiatrie foisonne d'initiatives. Et je crois que c'est avant tout de ce côté-là qu'on doit chercher à repérer, diffuser pour que ce soit dupliqué éventuellement. Et tout ceci se fait indépendamment du système de financement. Voilà. Il se fait grâce à la responsabilisation, la bonne volonté, l'envie de travailler ensemble des acteurs. Voilà. Donc les perspectives pour la psychiatrie demain, c'est aussi celle-là. C'est celle d'acteurs qui, des champs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, auront envie de transformer leurs pratiques au service de leurs concitoyens. Et le système de financement, de ce point de vue, doit permettre cela. On ne doit pas forcément attendre de ce système qu'il le favorise, enfin, qu'il le dicte, mais qu'il le permette.
Juste effectivement, nous disons à peu près la même chose sur les objectifs, la mise en œuvre est difficile, bien évidemment, surtout lorsqu'on souhaite intégrer des évolutions aussi fortes. Lorsqu'on parle de sortie d'hospitalisation complète, peu importe le moyen ensuite qu'on peut trouver ensuite pour permettre à la population de revenir dans ses lieux de vie, mais cette question-là va nécessiter bien évidemment des évolutions majeures dans l'organisation des établissements, potentiellement dans leur financement également, selon le profil d'activité, cela aura des impacts qui seront très importants. Donc, effectivement, discuter sur l'existant n'est pas quelque chose de très satisfaisant intellectuellement, puisque nous savons déjà tout cela. Néanmoins, cette difficulté-là reste prégnante et pollue les débats que nous avons depuis une dizaine d'années par le fait que nous n'arrivons pas finalement, et quand je dis nous, je pense que les pouvoirs publics pourront s'associer à cette difficulté, nous n'arrivons pas finalement à définir ce que nous souhaitons mettre en place pour demain. Donc effectivement, nous avons déjà des points communs, nous avons des visions communes. La mise en œuvre sera plus compliquée à mettre en œuvre, en place sur les différents territoires du fait d'un historique différent selon les établissements, du fait de deux modes de financement également qui aujourd'hui, certes, présentent les mêmes difficultés, mais nous avons un financement à l'activité, dans le privé, puisque c'est un financement à la journée. Certes, il est imparfait, certes, mais nous avons un financement à l'activité. Et cela peut marcher. Enfin, en tout cas, notre secteur montre que cela peut marcher pour les prises en charge que nous développons. Néanmoins, sur la question des parcours, qui effectivement, je dois dire que dans les rapports, on ne voit pas grand-chose sur la psychiatrie. Lorsqu'on parle de parcours, en règle générale, on est plutôt sur MCO, SSR, très peu sur la psychiatrie, voire même pas du tout. Parce qu'en psychiatrie, on est sur le parcours de vie, effectivement, mais ne serait-ce que sur le parcours de santé, on aurait déjà beaucoup de choses à faire. Et encore, si je devais aller à la maille la plus fine, sur le parcours de soins, il y a également des choses à faire, même si nous avons de grandes complémentarités entre les différents types d'établissements. Et finalement, nous avons déjà mis en place, d'une certaine façon, les parcours de soins. Mais sur les parcours de santé, avant d'arriver au parcours de vie, le parcours de santé est à construire. En psychiatrie, le décloisonnement des différentes structures, notamment avec le médico-social et la ville, sera prépondérant, bien évidemment. Mais tout cela est également lié à des rigidités administratives. Ces rigidités administratives, tant que nous n'arriverons pas à les faire sauter, nous serons en difficulté pour pouvoir faire évoluer nos prises en charge, pour pouvoir faire évoluer nos organisations, et pour finalement nous adapter aux évolutions que nous souhaitons mettre en place, finalement.
Je reprends la parole, pardonnez-moi, et puis ensuite à la salle, mais il faudra m'arrêter. Vous illustrez à travers l'exemple de l'hospitalisation privée financée en prix de journée toute la difficulté d'innover avec un financement à l'activité. Parce que vos prix de journée ne vous permettent pas de trouver la ressource pour l'innovation.
J'ai indiqué le contraire justement sur la RTMS. La RTMS, vous savez que c'est un investissement qui est très lourd pour un établissement, surtout les établissements privés qui ont des tailles moyennes relativement petites. Lorsqu'on acquiert un équipement de RTMS avec un financement qui effectivement, il n'y a pas d'acte pour la RTMS, donc il y a d'autres moyens qui peuvent être trouvés pour pouvoir avoir un complément de financement, mais ça ne couvre pas le coût à l'heure actuelle, le financement est trouvé ailleurs. Il est trouvé sur les recettes annexes, notamment, puisque nous avons le coût de nos soins, les prix de journée sont inférieurs au coût des soins. C'est quelque chose qui est démontré, qui est assez facile à voir dans les différentes données que nous avons à notre disposition. Donc fatalement, ce sont les recettes annexes qui nous permettent finalement de financer une partie de la qualité de prise en charge soutenir la partie soins, qui nous permet de financer le confort hôtelier et qui nous permet de financer l'innovation par définition.
Jacques Laëli de Montesson. Permettez-moi de partager une réflexion avec vous. Je trouve que la façon dont la problématique est posée détermine les solutions, les axes de réflexion qu'on va y amener. Et en la matière, je me demande si il est question de financement de la psychiatrie ou de redéploiement d'une enveloppe existante. Et je pense que, et d'ailleurs, je pense qu'une des raisons qui fait aujourd'hui les limites de la T2A c'est que ce n'est pas tant une modalité de financement de l'activité qu'une modalité indirecte de redéploiement d'une enveloppe fermée. De ce fait, je pense qu'on a probablement quelque chose à inventorier sur le fait qu'il est inévitable à un moment donné de se prononcer sur le redéploiement d'une enveloppe existante, fermée, qui probablement n'aura pas tendance à augmenter, entre des régions, des établissements, des secteurs qui, eux, existent déjà. Ce qui rend incontournable une forme de comparaison entre ces consommateurs.
Martine, oui.
Oui, bonjour, docteur Martine Lefebvre, je suis présidente de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France, qui est née il y a 10 ans, Nord-Pas-de-Calais, qui réunissait au niveau du Nord-Pas-de-Calais, qui réunira bientôt au niveau des Hauts-de-France, la totalité des établissements sanitaires qui ont une activité de psychiatrie, qu'ils soient publics, qu'ils soient ESPIC, qu'ils soient privés. J'ai par ailleurs, si vous voulez, un lourd passé, puisque pendant 8 ans et demi, j'étais responsable à l'Agence régionale de l'hospitalisation. Je ne dirais pas de la réorganisation, je dirais de l'accompagnement des acteurs de terrain qui, dans la région Nord-Pas-de-Calais, ont réorganisé leur offre de soins. En premier, si vous voulez, la chose impérative, c'est de connaître les besoins, mais de ne pas attendre que ça vienne de structures nationales. Ça peut paraître étrange que je vous dise ça avec le passé que j'ai, ou de politique, ou d'une ARS. La fédération, que j'ai la joie et la fierté de présider, elle est totalement autonome. Elle ne fonctionne que par les cotisations des adhérents, elle fonctionne par la rémunération, bien sûr, de différents travaux ou études que nous pouvons faire pour les uns et les autres. Mais c'est fondamental de connaître les besoins et que ce soit les acteurs de terrain qui s'approprient cette recherche et qui, à partir de là, proposent effectivement des solutions aux tutelles. Parce que les tutelles, c'est ce qu'elles attendent. Il ne faut pas croire, si vous voulez, les ARS au jour d'aujourd'hui, j'ai été quelque temps aussi, mais les ARS au jour d'aujourd'hui, c'est quand même grande pagaille. Donc il faut proposer, si vous voulez, il faut proposer quelque chose de cohérent, quelque chose qui ne met pas en concurrence le secteur public ou le secteur privé, qu'il soit à but lucratif ou non, quelque chose qui vienne du terrain. Par ailleurs, effectivement, dans le cadre de la fédération, si vous voulez, nous avons 4 missions principales. Être l'observatoire, hein, c'est-à-dire que nous pouvons descendre au niveau aujourd'hui d'une commune pour vous dire quelles sont les consommations d'anxiolytiques, quelles sont les consommations de produits, quelle est la surmentalité par suicide, etc. Donc connaître réellement la totalité des territoires et de savoir quels sont les besoins. Et à partir de là, en partenariat entre tous, puisque nous avons des partenaires associés également dans le médico-social, proposer des solutions. Alors, là où je suis un peu d'accord avec ce qu'il vient de dire, ne rêvons pas. Ne rêvons pas. L'enveloppe est bien fermée. Et on le voit bien, de toute façon, en MCO. Quand il y a une... On a vu, et c'est pas toi, Philippe, qui va me dire le contraire, on a vu les tarifs d'accouchement sans complications baisser selon le nombre d'accouchements qu'on faisait ou augmenter. Donc ne rêvons pas, et encore moins aujourd'hui, l'enveloppe est fermée, mais effectivement, amenons par une connaissance réelle des besoins de la population qui nous est confiée à avoir une répartition plus adéquate. La deuxième, si vous voulez, nous avons également, bon ça je vais mettre de côté, nous aidons à des travaux de recherche, puisque là, nous avons, si vous voulez, biostatisticiens, etc., etc. La troisième chose, j'en parle pas, c'est l'aide à la publication dans des revues référencées, comités de relecture, etc. Mais aussi, la quatrième chose que nous faisons, c'est des audits interhospitaliers. Quand je dis interhospitalier, c'est pas hôpital public, c'est inter-établissement adhérent à notre fédération. Par exemple, l'un des tout premiers que nous avions fait en 2007, c'était sur, effectivement, l'isolement thérapeutique, à la demande des usagers, parce que les usagers, les associations d'usagers font partie de la fédération. Et donc, nous avons fait un bilan de la façon dont on faisait l'isolement thérapeutique, mais 2 ans après, donc nous n'avons pas fait des recommandations, nous avons fait quelques préconisations, encouragements, tout ce qu'on veut, mais 2 ans après, on a refait un audit pour voir effectivement si ça a amené à quelque chose. Idem pour les soins somatiques en psychiatrie, idem pour la prise en charge dans les services d'urgence. Donc, si vous voulez, moi, ce que nous sommes allés dans différentes régions, il ne faut pas attendre de la tutelle, il faut que ça vienne du terrain, il faut que ça vienne de la psychiatrie, il faut que ça vienne de tous les acteurs. Bon, nous avons fêté nos 10 ans aujourd'hui, nous avons une petite sœur en Midi-Pyrénées, mais il faudrait qu'il y ait des petites sœurs partout, de telle sorte effectivement que ce soit la totalité de la communauté psychiatrique de ce pays qui dise, voilà, la réalité des besoins, c'est ça. Nous, nous proposons ça, et pour ça, nous avons besoin d'autant. Sans rêver, le monde des bisounours en termes financiers est fini.
Donc, Pascal Mariotti, président de l'ADES. Merci, Martine. Localement, tu as piqué en Rhône-Alpes-Auvergne l'idée des audits croisés inter-établissements, parce que je pense que c'est notamment une méthode intéressante et intelligente pour mobiliser les professionnels sur ces sujets-là. Merci surtout, parce qu'il faudrait quand même qu'on considère aujourd'hui, on n'a pas été assez explicite sur le sens de la démarche, mais qu'on considère les progrès qu'on a effectués depuis quelques mois à quelques années, mais quelques années, c'est déjà un peu beaucoup. Je ne voudrais pas qu'à discuter uniquement de la question de la qualité de nos données ou des choses qu'on ne saurait pas faire, on cultive systématiquement, comme on le fait trop souvent, une culture à la fois française et encore plus psychiatrique, du pessimisme et parfois de la plainte, quoi. Donc j'aimerais que le pragmatisme, c'est aussi de regarder ce qui bouge et où on voudrait aller et pourquoi il faut y aller maintenant et pas attendre de nouveau 10 années supplémentaires. Alors il y a effectivement ce qui vient, d'être dit. Moi je voulais revenir rapidement en tête de chapitre sur quelles considérations. Si sur l'ADESM notamment, mais pas tout seul, même si c'est essentiellement notre groupe, je rappelle qu'il était ouvert et le séminaire également. Après, il y a ceux qui sont venus et puis ceux qui ne sont pas venus. C'est notre séminaire du 22 juin où on a essayé de finaliser notre position et puis la note dont on a parlé et que présentait Jean-Yves Blandel, à laquelle faisait allusion Vincent, vous l'aurez en lecture prochainement, elle sera rendue publique. On sait que notre mode de financement actuel, et ça, c'était le premier constat, ça a été développé, il a plein de défauts. Donc, il faut en sortir. Donc, on parle bien de financement, on ne parle pas d'autre chose, même si la réflexion ne peut pas se limiter au financement. Et en particulier, en fait, on sait qu'on a pâti d'être dans ce mode de financement comparativement aux autres disciplines et spécialités, puisque nous n'avons pas pu profiter d'une période où les financements globalement augmenté encore. Et maintenant, c'est fini. Donc, si on est en enveloppe fermée, c'est parce que c'est aussi la résultante d'une décennie, puisqu'on a regardé avec Louis en particulier sur la décennie, où la psychiatrie est quand même la discipline qui a connu la plus faible augmentation de ses ressources, sans même parler ensuite des ponctions qui sont opérées sur ces ressources. Je ne vais pas redévelopper cette partie-là. Ce qui est intéressant quand même de la part du ministère, et j'y reviendrai, c'est qu'aujourd'hui, certains interlocuteurs nous disent, comme motif aussi de changement du financement, qu'on a peut-être touché les limites de ce dispositif où la psychiatrie facilement contribue à plein de choses parce que c'est une enveloppe et c'est la dernière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, moi je veux bien qu'on ne parle pas de financement et qu'on parle d'autre chose, je pense en particulier aux propos de Sandra, sauf qu'on a perdu 10 ans. Alors personne n'est responsable directement de ces 10 ans perdus, sauf qu'il y a 10 ans, on pouvait se poser certaines questions qui n'est plus temps de se poser aujourd'hui. Il va falloir qu'on privilégie à un moment donné, et c'était la position de l'ADES, on a poussé en ce sens, un principe d'action. Ensuite, le principe d'action, on le voit bien, et c'est ce qui nous faisait défaut, il se heurtait à l'absence de pilotage politique. Ça, c'est pour vous réexpliquer quelle a été notre démarche et comprendre pourquoi on discute de ça aujourd'hui. Et donc, en particulier, et on n'a pas été les seuls, on réclame, y compris les fédérations, depuis des années, un pilotage politique sans lequel, dans notre pays hyper centralisé, même si ensuite il faut revenir plus fin sur le terrain, rien ne se fera, nous le savons. À partir de là, point suivant, je rappelle, et pour mesurer, pour se donner quand même une vision un peu plus optimiste des choses, qu'il y a 3 ans, 4 ans d'ici, Jean de Beaupuis, aux journées de l'ADESM, nous disait le thème du financement de la psychiatrie n'est pas d'actualité, on en reparlera dans quelques années. Aujourd'hui, on en parle et peut-être un peu plus rapidement que prévu parce que les défauts commencent à se voir. Troisième remarque, j'insistais sur le fait que lors du séminaire, on a aussi tracé quelques perspectives, d'ailleurs qui n'apparaissent pas et volontairement toutes dans la note, bien qu'elles soient citées à certains moments. On parlait tout à l'heure, en particulier donc, du financement géopopulationnel. Nous, on considère qu'il faut être pragmatique et qu'il faut démarrer par un financement géopopulationnel. En revanche, nos échanges, notre propos, David m'en est témoin, hein, puisqu'il était présent sur le séminaire pour la FHP, ça a été de se dire que sans doute qu'à un moment donné, quand les parcours se structureraient et le financement n'a pas été posé comme un préalable, on aurait sans doute une partie du financement géopopulationnel qui évoluerait vers des financements de segments de parcours. Et là, on retrouve l'articulation que tu décrivais au rapport Véran sur le sujet. De même, on s'est fait présenter par Agnès ici présente le modèle Séraphin tel qu'il commence d'être développé, même si pour l'instant il est pas il finance pas, dans le médico-social, parce qu'on voit bien que pour certaines prises en charge, et on s'est posé cette question, il y a sans doute des choses qu'il va falloir, par les modèles de financement, articuler au médico-social, quand bien même on ne peut pas avoir d'articulation réglementaire. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, on n'attend pas encore 10 ans d'avoir rempli la totalité des conditions qui pourraient permettre enfin de se dire « Tiens, on va changer de modèle de financement ». L'objectif, c'est de changer assez rapidement de modèle de financement et puis ensuite de le faire évoluer, de le moduler et de l'améliorer. On ne recherche pas un modèle parfait. À partir de là, et c'est le dernier point, il y a quand même des aspects qui sont tout à fait positifs dans les différents propos qu'on entend ici et à l'extérieur, y compris la mission IGAS en cours. On est en train de se rendre compte que ce qu'on dit dans les établissements commence d'être un peu partagé par d'autres, c'est qu'il faut cesser de se concentrer sur la description des dispositifs et imaginer qu'on va financer des dispositifs. Ça fait plusieurs années qu'on discute, notamment dans nos journées annuelles, la question de la pertinence du triptyque CMP, CATTP, hôpital de jour. Je suis volontairement caricatural, donc il faudrait sortir. Et moi-même, dans l'établissement, je répète sans arrêt aux médecins que la question n'est pas là. La question, c'est comment vous soignez, comment vous fonctionnez, quelles sont vos missions et comment vous organisez. Ensuite, l'activité, on la mettra dans les bonnes cases et dans la bonne boîte. Autrement, tout est déformé par avance. Sur cette base, l'évolution actuellement de la réflexion, et on l'a entendu ce matin, c'est quand même un point positif, c'est qu'on parle de financer des missions. Alors évidemment, il va falloir définir les missions. Les missions, elles sont quand même pour partie dans le code de la santé publique, Jean-Yves l'a souligné ce matin. Pour une autre partie, elles ont commencé d'être décrites dans les différents travaux autour de la loi de santé concernant la psychiatrie. On peut être d'accord ou pas sur les orientations, mais il y a quand même un début d'orientation. On sait quelles sont les ambitions de certains en la matière de réécrire une forme de circulaire de 90 ou quelque chose comme ça. Et dès qu'on en parle avec ses interlocuteurs, même si ça peut paraître très lointain ou très général, l'idée c'est de trouver, tel qu'on l'a décrit dans la note, un mode de financement adapté qui va avec la mission. Ce mode de financement, tu l'as souligné tout à l'heure, pouvant être divers selon la mission dont on parle, mais devant être également évolutif parce qu'on sait très bien que les choses évolueront. Sur ces missions, c'est aussi décrit. Alors là, je me tourne vers Corinne parce que c'est une partie de la responsabilité qu'elle a accepté de prendre dans le cadre des travaux là au ministère sur l'instruction. Et on a bien vu le 27 juillet que c'était, je raisonne par allusion, extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on veut évaluer ? Je pense qu'effectivement, on va d'abord, plutôt que d'évaluer de l'activité, évaluer des résultats. Les résultats, et en termes de résultats de santé publique, notamment sur une population et sur un territoire, c'est bien la question qui se pose. Sauf qu'effectivement, on s'est aperçu tout à coup que dans le cadre de l'instruction, personne n'était d'accord sur ce qu'on envisageait d'évaluer. Bon. Et je pense que la question, effectivement, de l'évaluation sur résultat, c'est celle qui met notamment en rapport l'établissement à l'ARS, au contrat. Et moi, je ne parle pas que du CPOM, je parle aussi du PGFP. Parce que je pense que si on n'a pas le CPOM, si on n'a que le CPOM et pas le PGFP, on n'a qu'un bout. Ensuite, évidemment, on est bien d'accord qu'il faut décrire des activités et progresser sur la description des activités. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, l'évolution des activités et tout le reste. Et je pense qu'en particulier, et on l'a souligné parce que ça fait partie de nos débats, je veux en témoigner, quand on a parlé efficience entre nous, on n'a jamais dit qu'un mode de financement tel qu'on le présente nous dédouanait de toute réflexion et de tout travail sur l'activité, puisque nous étions bien conscients tous autant que nous étions autour de la table, que nous avions besoin d'une vision plus précise de l'activité dans nos établissements, en particulier pour le pilotage de nos établissements. Et la question de l'activité, je la situe plutôt comme une problématique de pilotage de l'établissement que comme une problématique d'échange ou de contrat avec l'ARS. Je pense qu'on parle de deux choses différentes. Et pour conclure, je crois que notamment quand on regarde, et on a fait cette comparaison avec Louis, et là sur l'île on est sur des établissements qui sont dans cette transition-là, quand on regarde effectivement la façon dont les établissements d'un panel d'établissements comparables, comparant ce qui est comparable, même taille, même budget, même type de population desservie ou d'agglomération, quand on regarde les trajectoires de ces établissements, notamment plus ou moins avancés sur l'ambulatoire, ça fait ressortir tout de suite la question que, outre le transfert de ressources de l'hospitalisation vers d'autres formes de prise en charge, là c'est la vision mécanique des choses, il faut s'interroger évidemment sur l'activité, y compris le niveau d'activité qui se développe en extra-hospitalier, et qu'on est tous les deux convaincus que la construction du modèle extra-hospitalier et ses développements nouveaux ne passent surtout pas par un foisonnement d'activité, et qu'évidemment l'activité, on va devoir la transformer et donc la décrire, on va devoir la déplacer à la fois au plan conceptuel et au plan physique, l'exercer aussi ailleurs. On va devoir en abandonner une partie pour la faire réaliser par d'autres, la psychiatrie faisant beaucoup de choses qu'elle n'a peut-être plus à faire ou qu'elle n'aurait pas dû à faire ou qu'elle n'aura pas à faire dans une approche plus coordonnée sur le parcours avec le médico-social. Et je pense effectivement qu'à un moment donné, on doit se mettre en tête que développer une activité ambulatoire et la réorganiser, ça ne veut surtout pas dire la faire foisonner, parce qu'effectivement, à partir de là, on décrit des choses dont on n'arrive pas à mesurer la réalité qu'elle représente derrière en termes d'activité de nos équipes. Et on est très loin à ce moment-là de la réponse aux besoins.
Je peux répondre. Je ne sais pas si je vous réponds derrière la présentation de M. Mariotti. Il y avait quelque chose d'intéressant sur la partie du modèle belge où effectivement ce raisonnement par lit, et forcément quand on raisonne par lit, bah, on a tendance à mettre des gens dans les lits, quoi. Et voilà. Et donc du coup, même eux, ils en étaient justement à voir comment ils allaient retransférer des choses, faire des deals pour troquer des lits contre des activités pour pouvoir aller les externaliser et autres. Je reviens sur la façon dont on a de se saisir de ce qu'on fait. L'activité, on en a besoin pour se connaître, on en a besoin pour monter des projets médicaux, on en a besoin pour le pilotage interne, et donc de toute façon, elle est indispensable et pour le moment, elle n'est pas au niveau où elle devrait être par faute, enfin, voilà. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas une remarque pessimiste, c'est pas ni optimiste, c'est juste un constat. Et on voit bien que on a à progresser sur cette notion même de pertinence des soins, et que c'est bien au sein, avec les professionnels et nous-mêmes, à nous poser la question, parce que dans un environnement où les financements se restreignent, je ne crois pas qu'en psychiatrie, on a envie, et comme dans les autres champs, d'avoir un coup de rabot bête et méchant sur tous les financements de tout le monde. Il est plus adéquat qu'on aille là où on estime, nous, que ce n'est pas pertinent, de diminuer ses dépenses à cet endroit-là pour pouvoir conserver des budgets, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire en psychiatrie, et donc en psychiatrie et ailleurs dans les autres champs. Et on voit bien que ce raisonnement-là, ça a été un des points particuliers au niveau des Pays-Bas, où les dépenses de santé en psychiatrie montaient de façon énorme et où le ministère de la Santé commençait à trouver que ça n'avait pas une grande pertinence, cette flambée des dépenses de santé en psychiatrie. Et pour lequel, derrière, les psychiatres ont collectivement dit, bah oui, peut-être qu'il y a des dépenses qui augmentent, mais regardez, avant de contester des budgets pour nous, est-ce que vous ne croyez pas, vous, ministère de la Santé, que vous pourriez faire des efforts pour qu'il y ait moins de gaspillage en santé ailleurs ?
Et ça a été pris au mot par le ministère, qui a lancé tout un travail sur essayer de diminuer des dépenses non pertinentes et autres pour pouvoir préserver des budgets et ne pas effectivement contester l'exercice des uns et des autres, opposer l'exercice en psychiatrie, des dépenses en cardio ou du reste, quoi. Il n'y a pas de raison. Donc on voit bien que la pertinence de ce qu'on fait, dans un modèle où on va financer effectivement à l'acte, on a tendance à faire des actes. Dans un modèle où on finance à la journée ou au lit d'hospitalisation, on fait on met des gens dans les lits d'hospitalisation. Donc on voit bien que le modèle de financement, de toute façon, il n'y en a pas de parfait. Donc il n'y en a jamais eu de parfait. Donc on ne pourra pas attendre effectivement un modèle parfait pour se lancer. Néanmoins, je pense qu'effectivement, ça appartient aux professionnels de se saisir, d'avoir eux-mêmes une vision claire de leur activité, de leur exercice, de savoir vers où ils veulent aller, de construire ces projets et de voir tout ce qu'ils peuvent eux-mêmes diminuer en termes de non-pertinence. Et on voit bien que la France, on est épinglé à l'OCDE parce que les dépenses de benzodiazépines, de machins, de psychotropes et tout, on est infoutu de faire les liaisons avec les bases de données pour aller dire entre la ville, l'hôpital, où est-ce que ça dérape, pourquoi on prescrit trop, alors ah non, c'est la faute du médecin généraliste, ah ben non, c'est la faute de machin. Enfin bon, tout le monde se renvoie la balle, mais au final, on apparaît dans les pays les moins pertinents et on est épinglé par l'OCDE. Et on est incapable d'aller chercher ça parce que c'est dans les bases du CNIRAM auxquelles nous n'aurons pas accès puisque évidemment l'open data aboutit au closed data. Donc du coup, on n'arrivera même pas nous à piloter nous-mêmes, à avoir une vision claire de nos dépenses et de savoir pourquoi en Europe, les Français, on est vraiment si accrochés à tous ces médicaments. Et on n'a pas de nous-mêmes, en tant que professionnels, à se saisir de ça pour réfléchir à est-ce que c'est bien pertinent, est-ce qu'on peut trouver un autre moyen, est-ce que si, et se poser les bonnes questions pour, du coup, diminuer ce qui n'est pas pertinent pour conserver les financements pour ce qui est pertinent. Donc, effectivement, l'enveloppe, elle est fermée. Effectivement, c'est un réajustement, comme vous disiez, vous avez raison, entre les mais ce réajustement, il doit être équitable. Effectivement, pour le moment, il n'y a jamais eu de péréquation interrégionale. Hein, elles ont été intra-régionales, mais le ministère nous a confirmé qu'il n'en avait pas fait encore de interrégionale. Celle-là, elle va être encore plus violente le jour où ils vont s'y mettre avec transfert des DAF en interrégion. Et moi, je pense que plutôt que ça, on ferait bien, effectivement, les professionnels, d'avoir les données et de plancher sur qu'est-ce qu'on peut construire et là où on veut préserver des financements parce qu'on en a besoin pour construire tel projet parce qu'on y croit et qu'on puisse effectivement l'évaluer derrière. Donc mon message, il est en rien négatif. Il est tout à fait positif et je n'ai pas l'intention qu'on attende 10 ans non plus pour s'y mettre. C'est maintenant qu'on s'y met à améliorer ce qu'on fait, la description de ce qu'on fait.
Juste un petit complément. L'enveloppe est fermée, l'enveloppe des dépenses de santé, oui. Mais si on réfléchit dépenses publiques plus largement, en incluant celles des collectivités locales et du monde du logement, notamment des bailleurs sociaux, avec une approche vraiment complète de l'usage des dépenses publiques, on peut encore améliorer le système, malgré les contraintes, en mettant en synergie. Et la question, le domaine du logement est un très bon exemple, mais il y en a d'autres. Hein. On se place dans le champ de la réhabilitation psychosociale et la loi El Khomri, août 2016, ouvrait aussi pour le champ du travail tout ce chantier du travail accompagné, du coaching dans l'emploi. Il n'y a pas de mot français correct pour l'instant, d'accompagnement personnalisé dans l'emploi. Mais aussi plus largement l'accès à toute la citoyenneté, donc aux activités sociales, de loisirs, de culture, de sport, etc. On est là sur un champ qui est co-financé par des acteurs qui ne sont pas que l'assurance maladie, mais également des collectivités, voire des des associations financées par les cotisations de leurs adhérents. C'est donc les dépenses publiques et plus largement toutes les dépenses socialisées. Et quand je parle de dépenses gérées par le monde associatif, je vais très loin dans la notion de socialisation des dépenses, mais tout ce qui est mutualisation finalement est une piste de travail très intéressante dans un monde de contraintes sur les dépenses qui passent par les organismes publics. Il y a quand même cette voie, à mon avis, d'espoir, de mieux faire malgré la contrainte. Voilà.
Justement, sur la voie d'espoir, la chance que nous avons en psychiatrie, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir faire des propositions. Je dois dire que les autres champs ont régulièrement eu affaire avec des propositions qui venaient d'en haut. En psychiatrie, on a la chance de pouvoir faire remonter nos besoins, nos envies, pour pouvoir faire évoluer la psychiatrie et la faire entrer véritablement dans le XXIe siècle. Donc ça, c'est une voie véritablement d'espoir, puisque justement, on nous attend. La DGOS nous attend, les pouvoirs publics nous attendent. Ça ne veut pas dire que nous serons entendus sur l'ensemble de nos propositions, mais cela veut dire qu'il y a en tout cas une écoute et il y a une volonté de faire évoluer les choses. Donc là, nous avons certes pas 10 ans, et je partage l'avis de Pascal, il est important de ne pas perdre plus de temps que... Même si nous n'avons pas perdu totalement les 10 dernières années, nous avons quand même développé des réflexions, il y a tout de même eu des travaux. Il faut aussi prendre du temps pour certaines évolutions, cela ne se fait pas en un an ou deux. Il y a une culture à faire évoluer, il y a des thérapeutiques également qui ont mis du temps à arriver à maturité. Mais en tout état de cause, il y a aujourd'hui une possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir proposer de nouvelles choses. Donc profitons de ce temps-là, faisons des propositions, mais faisons-les de façon pragmatique. Lorsqu'on parle d'évolution, on est allé de la petite évolution à l'évolution structurante de notre modèle. L'évolution structurante, nous ne le ferons pas dans l'année qui vient. Il faudra définir une trajectoire pour faire évoluer nos modèles et faire en sorte que cette évolution-là soit bien intégrée par l'ensemble des établissements de santé. Si on part sur une trajectoire beaucoup trop abrupte, on va avoir des difficultés pour que l'ensemble des établissements puissent intégrer ces problématiques-là, puissent mettre en œuvre leur propre évolution au sein de leurs organisations et qu'on puisse finalement intégrer les difficultés, également les particularités de chacune des structures. Il y a une histoire sur les territoires, ça ne se fait pas tout seul. On a pu le voir sur tout un tas de dispositifs qui avaient été décidés d'en haut et qui ont échoué, on peut le dire. Il y a du travail à faire pour pouvoir embarquer l'ensemble des établissements autour de ces évolutions-là. Et en tout cas, on a des pistes à proposer pour pouvoir le faire évoluer. L'ADESME l'a fait. Je pense vous avoir également proposé quelques pistes au début de mon intervention, enfin à la fin de ma première intervention autour de l'innovation, autour de la culture du résultat, de la qualité du service rendu, puisque c'est ça l'objectif de chacune des structures de soins et de santé d'autant plus, c'est de pouvoir avoir un véritable intérêt pour la population. Et là-dessus, nous avons effectivement des choses à faire. Nous avons besoin également de données épidémiologiques. Nous avons besoin de développer la recherche. Typiquement, sur la recherche, nous n'avons pas accès, je dis nous, collectivement, aux enveloppes mairies lorsqu'il n'y a pas d'établissement MCO à coller. Puisque les enveloppes mairies sont dédiées uniquement aux établissements de MCO, pourquoi n'avons-nous pas de financement dédié à la recherche en psychiatrie, dédié à l'innovation? Alors, je sais qu'il y a des travaux sur l'innovation organisationnelle, mais il y a des choses à faire autour de cela. Il y a d'ores et déjà des établissements qui évoluent, qui innovent, qui ont des choses à proposer. Passons à l'étape supérieure.
Oui, je voulais dire ce que monsieur vient de dire, c'est que la recherche en psychiatrie souffre de financement, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est 4 fois moins que la cancéro, et on en a d'autant plus besoin, crucialement, parce qu'on a besoin de référentiels. Les acteurs du terrain proposent des choses, mais sur la même problématique, on va avoir un foisonnement de propositions. Pourquoi pas? Mais quand il s'agit de financer, il nous faut un référentiel commun probant, valide par des données scientifiques. C'est ce que j'aurais aimé qu'on mette en place.